Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Tête de liste du parti d'Éric Zemmour pour les prochaines européennes, Marion Maréchal a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Après la publication d'un post Instagram du créateur Simon Porte-Jacquemus, en couple avec Marco, annonçant la naissance de leurs jumeaux, elle a réagi avec ce message.
Où est la maman ?
Ces propos, jugés violents et homophobes par ses opposants, relancent le débat sur la gestation pour autrui. D'autant que le Parlement européen vient de mettre à jour sa directive contre le trafic d'êtres humains. La GPA forcée y est évoquée.
Nous protégerons plus de personnes en interdisant de nouvelles formes de trafic. Zéro tolérance pour le trafic des mères porteuses.
Le Parlement européen ne condamne pas le recours à la GPA encadrée. Mais l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy y voit l'occasion d'aller plus loin.
Je crois que la chose la plus importante à faire, ce serait d'abord d'obtenir une interdiction internationale.
À gauche, comme dans la majorité, des voix s'élèvent également contre la légalisation de la GPA en France.
Moi, à titre personnel, ce qui me gêne, c'est une possible marchandisation du corps de la femme. Le président de la République s'est exprimé aussi pour dire que nous étions contre, parce que louer, vendre le corps d'une femme, ça peut poser un certain nombre de difficultés.
Un discours qui heurte les parents d'enfants nés grâce à une mère porteuse. Christophe Beaugrand et son mari sont les heureux papas d'un petit Valentin. Ils défendent une GPA éthique.
On l'a vu aux États-Unis où c'est légal, encadré de manière éthique, loin des clichés qu'il peut y avoir, des stéréotypes, notamment véhiculés par certaines associations comme la Manif pour tous, etc. Rien ne s'est fait dans l'illégalité.
Alors faut-il continuer à interdire la GPA en France ou faut-il l'autoriser et l'encadrer ? Une GPA éthique est-elle possible ?
Trois invités très concernés à divers titres à propos de ce débat. Thomas Pavlovski, bonsoir monsieur. Vous bonsoir. Êtes le papa de Marie qui a 4 ans et Sophia qui a 1 an. Elles sont toutes les deux nées par GPA. Vous êtes donc le père de deux petites filles nées aux États-Unis. Vous êtes resté proche, dites-vous, des deux mères porteuses de vos filles. Elles les connaissent d'ailleurs. Vous avez le sentiment d'avoir fait une GPA altruiste ou éthique. Pour vous, il ne faut pas nier la réalité. Il faut autoriser et encadrer la GPA, la gestation pour autrui, plutôt que de la dénoncer ou de l'interdire. À côté de vous des positions divergentes. Gabrielle Siriwari, bonsoir. Vous êtes autrice adjointe au maire PS du 18e arrondissement de Paris. Vous êtes engagée au sein de l'association Oser le féminisme et votre livre sur la République des hommes est paru chez Bouquin. Selon vous, dans les faits et dans un marché mondialisé, la GPA, c'est la marchandisation du corps des femmes. La GPA éthique est un leurre et un vœu pieux, ça c'est toujours d'après vous. Il faut interdire partout la GPA. Et enfin, le professeur Israël Nizan, bonsoir,
bonsoir.
Professeur émérite de gynécologie obstétrique à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste aussi des questions de bioéthique et d'éthique médicale. Votre dernier livre, Par les sexes, est paru chez Grasset, Par les sexes aux ados. Selon vous, la GPA éthique, c'est lorsqu'il n'y a pas d'emprise commerciale, ou d'emprise tout court d'ailleurs, sur la mère porteuse. Le meilleur exemple, c'est la Grande-Bretagne qui pratique là-bas depuis plus de 30 ans, une GPA sans transaction financière possible. On va développer tous ces thèmes et on va démarrer avec la date du jour.
Tout à fait, en France, la GPA est interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, mais une circulaire de 2013 permet de faciliter la reconnaissance et la filiation d'enfants issus de mères porteuses à l'étranger. Thomas Pavlovski, votre témoignage est important. Pourquoi d'abord avec votre mari, vous avez décidé d'avoir recours à la GPA pour avoir vos filles, et comment avez-vous procédé concrètement ?
C'est assez simple. Hein. Quand vous êtes un couple d'hommes, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. L'adoption est un leurre. Hein. Je vous ramène aux déclarations qu'avait fait la responsable de l'adoption de Seine-et-Marne ou monsieur le président du conseil des pupilles de Lorraine, tous les deux condamnés, qui disaient « on donnera aux homosexuels les enfants atypiques ». Bon, ben voilà, c'était il y a 5 ans, c'était pas il y a 10 ans, c'était pas il y a 20 ans, c'était pas il y a 30 ans. Donc à partir de ce moment-là, une coparentalité, on ne l'envisageait pas parce qu'on voulait un cadre pour l'enfant avec deux parents, etc. Donc l'adoption en France n'étant pas possible, l'adoption pour les homosexuels à l'étranger, était quasiment impossible. Restait la GPA. On a mis 3 ans hein, avant d'avoir Marie, parce que c'est un long processus.
Aux États-Unis. À travers une agence, des intermédiaires.
C'est oui, voilà, donc c'est assez simple. Donc, Pour moi, ça a été un long chemin parce que je n'étais pas spécialement favorable à la GPA au départ, parce que moi aussi, je me suis posé des questions, un peu comme des parents infertiles. Vous vous posez des questions et le désir d'enfant pose beaucoup de questions, comme des gens qui adoptent, comme des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, etc. Et puis, à un moment, à force de voir des gens autour de nous qui avaient des GPA, qui avaient fait des enfants par GPA et à voir comment ça se passait, à savoir que souvent, la mère porteuse, entre guillemets, la femme qui porte plutôt, pour dire le terme comme il faut, ou la donneuse d'ovocytes reste dans le cadre.
Dans le cadre.
C'est le cas. Kelsey, donc, qui est la génitrice de nos filles, était au baptême de nos filles cette année et il y a 2 ans. Donc, ça reste dans le cadre.
Ça reste dans le cadre familial. Néanmoins, est-ce que la dimension financière, la financiarisation donc du corps de ces femmes qui sont incluses quasiment dans votre vie familiale, vous a posé un problème? Vous avez dit finalement on achète des utérus. Est-ce qu'il y a eu, et puis alors, combien? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vous poser la question? Est-ce que vous pouvez y répondre? Combien cela vous a-t-il coûté?
Alors, de manière très surprenante, c'est pas ça qui éthiquement a pu me poser des questions. Bon, ce qui m'a pu me poser des questions, c'est que allait ressentir cette femme qui a porté ces bonnes fées, comme on les appelle pour nos filles, qui ont pu porter un enfant et qui allait confier notre enfant. Parce que pour rappel, c'est quand même très important de le rappeler, il n'y a aucun lien biologique entre l'enfant et la femme qui le porte. C'est extrêmement important de le
parce qu'il y a une donneuse et une mère porteuse.
Voilà, et c'est important de le rappeler parce que je pense que la majorité des Français ne le savent pas. Mmh. Et je pense qu'on a vu le sondage de tout à l'heure où 59% des Français sont en faveur de la GPA. Si les gens étaient au courant qu'il y avait une dissociation, je pense que ce serait encore plus important. Mmh. Mais moi, c'est pas la dimension financière, parce que la dimension financière, c'est quoi? C'est les États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est les frais d'hôpitaux. Parce qu'il n'y a pas la sécurité sociale. Donc, une semaine à l'hôpital, pour bassement, c'est 40 000 euros, hein, par exemple. Mmh. Voilà, d'accord. C'est les frais d'avocat. D'accord. C'est ça, la dimension financière. D'accord. C'est pas ce que touche cette femme, en fait, qui d'accord. est assez minime.
Gabriel Siriwari, comment vous réagissez, tout simplement, à ce témoignage de Thomas Pawlowski, qui a choisi cette option parce que les autres n'étaient pas possibles ou qui ne souhaitaient pas de coparentalité? Je rappelle que coparentalité, c'est avec un couple de femmes ou une femme en France.
Non, j'entends, et j'entends que le débat se pose parce qu'il y a un sujet sur l'adoption, il y a un sujet sur
l'accès. Mais on va pas le faire ce soir.
Non, on va pas le faire ce soir. Effectivement, je pense que c'est un autre sujet. Et je pense qu'il faut absolument, les propos que vous avez cités sont absolument scandaleux, et je pense qu'il faut absolument lutter contre toutes les formes de discrimination qui peuvent toucher les cas d'homoparentalité et de recherche d'adoption.
Sur le témoignage de Thomas Pawlowski.
Sur la GPA, moi, je considère, et vous l'avez dit, et nous sommes nombreuses à considérer, notamment les féministes, qu'il s'agit d'une location d'utérus et que c'est…
J'ai mis des guillemets.
Et c'est quelque chose, moi je n'en mettrai pas parce qu'en fait, ça reste un acte qui est un acte marchand dans la plupart des cas. Et c'est donc une location d'utérus, quelque chose qui doit rester absolument interdit sur la base de principes fondamentaux qui sont l'indisponibilité du corps humain. C'est la raison pour laquelle c'est interdit aujourd'hui en France, la non-marchandisation du corps des femmes. Et je voudrais insister sur un aspect, c'est que là où ça existe, la GPA est en train de s'organiser comme une industrie assez lucrative entre les différents pays qui l'ont autorisée. Donc, on a en fait un marché international de la GPA entre eux, voilà, les États-Unis.
On va faire un état des lieux avec Anna dans un instant,
etc. Ouais. Et il ne faut pas oublier, et ça, je le dis maintenant, c'est que la GPA reste une violence pour les femmes. Ça reste une violence qui va être une violence économique. On pourra en reparler parce que dans de nombreux cas, dans la majorité des cas, c'est quand même sous pression financière que la femme va accepter de le faire, parce qu'il n'y a pas de cas où c'est une femme aisée qui va porter le…
Attendez,
je vais terminer.
Non, mais
Vous allez pouvoir trouver contre-exemple, mais dans la très large majorité des cas, ce sont des femmes plus précaires que les couples qui cherchent à porter l'enfant. Donc ça peut être une violence économique. Et je termine juste, c'est une violence, et là c'est pas seulement moi qui vais le dire, c'est le Conseil consultatif national d'éthique, c'est une violence physique, une violence pour la santé des femmes. Les grossesses par GPA présentent plus de risques de se terminer en césarienne, 3 fois plus de chances, un risque significativement plus élevé de dépression postpartum. Oui. Et j'ai entendu que ça vous a interpellé aussi, et c'est normal, parce que c'est un acte particulier de porter un enfant pendant 9 mois.
Alors, je veux bien vous citer les sources pour les dépressions postpartum, parce que les études anglaises disent le contraire.
Ah non, bah alors j'ai juste alors,
pour la bah, écoutez, on a un arbitre.
On a un arbitre juste à côté.
On a un arbitre.
Mais sur la violence économique, vous disiez, vous avez un exemple contraire, c'est-à-dire ce qui est la violence économique. Vous voulez réagir là-dessus?
Bien sûr. Alors donc Isabella, donc qui est la mère porteuse de notre fille Marie, gagnait plus que nous. Elle était cadre de santé aux États-Unis, donc parce qu'on doit savoir combien gagne la mère porteuse pour pouvoir l'indemniser potentiellement si elle devait être arrêtée. Elle gagnait plus que nous. Isabella a été mère porteuse parce qu'elle-même, pour avoir son propre enfant, a dû avoir un don. Elle pouvait porter, mais pas ovuler. Mmh. Isabella vivait très bien. On s'est rendu chez elle, etc. Mmh. Et donc ça, c'est un fond d'argument. Et encore une fois, ces mères porteuses, comme on les appelle, plutôt ces dames, hein, parce qu'elles ne sont pas mères, la grossesse n'est pas... Avoir une grossesse, c'est pas forcément... dans la psychanalyse, a démontré qu'il y avait un processus de maturation pour devenir mère et qu'on pouvait dissocier la grossesse de la maternité. Voilà. Et
la, moi, je pense déjà, que c'est important de les continuer à les appeler mères porteuses parce que c'est pas une expérience...
Attendez, on interrompt votre débat, on va faire intervenir le professeur Nizon.
Comment vous réagissez-vous quand on dit, voilà, Thomas Pavlovski et ceux qui ont recours à la GPA sont considérés en France comme hors la loi. Qu'est-ce que vous dites ?
Je considère que c'est catastrophique de la part de notre pays d'exporter nos souffrances. On l'a déjà fait pour l'IVG. Souvenez-vous, il y avait 250 000 femmes qui étaient obligées,
chez les faiseuses d'anges en Belgique et ailleurs,
d'aller ailleurs.
Avant 1975.
On le fait pour plein de sujets. Et là, pour la GPA, à nouveau, nous montons sur nos ergots pour dire les grands principes, sans être capable de voir le cas par cas. Si le problème économique était le principal, on pourrait dire « paramétrons notre loi » et disons que la mère porteuse doit gagner plus que la mère d'intention. Et par exemple, dans les cas de famille…
Ce n'est fait nulle part, ça.
Dans les cas familiaux, pardonnez-moi, vous n'aimez pas être interrompu, moi non plus. Dans les cas où une sœur porte pour sa sœur ou une mère porte pour sa fille, il n'y a pas de problème économique. Et je trouve que c'est un tout petit peu difficile pour les femmes de s'entendre dire par d'autres femmes « t'es pas assez grande pour décider ce que tu vas faire de ton corps, moi je te dis que c'est pas bien pour toi, et d'ailleurs je te l'interdis, et d'ailleurs je ne reconnais pas ta filiation maternelle si tu le fais ». Alors que les pères peuvent reconnaître leur filiation paternelle très facilement. Pour moi, ces femmes sont des nounous prénatales. Et elles disent, est-ce qu'il y a plus de laideur morale à être une nounou prénatale plutôt qu'une nounou postnatale? Est-ce qu'il se passe plus de choses entre une mère qui porte un enfant ou une femme qui prend en nourrice un enfant? La réponse est non. Il se passe de toute façon beaucoup de choses et ces nounous prénatales sont extrêmement importantes. On devrait, en France, enfin encadrer la GPA pour qu'elle puisse être éthique chez nous.
Réaction après, mais s'il vous plaît, je voudrais qu'on avance en évoquant avec vous, Anna, pour nous tous, la situation de la GPA, pas en France, mais dans les autres pays qui la pratiquent, et de quelle façon ?
Oui, alors j'ai choisi quelques exemples, mais la liste n'est pas exhaustive. Alors tout d'abord, il y a les pays qui la tolèrent, c'est-à-dire qu'aucune législation ne l'interdit, et par exemple, c'est le cas de la Belgique, et le comité consultatif de bioéthique belge a d'ailleurs estimé l'année dernière que la GPA était désormais éthiquement acceptable et qu'il souhaitait la création d'un cadre juridique. Ensuite, il y a les pays qui autorisent la GPA de manière très encadrée. C'est le cas des États-Unis et de quelques pays en Europe. Alors, aux États-Unis, les situations varient en fonction des États. Dans l'État de New York, seuls les résidents américains y ont accès. Et en Louisiane, eh bien, seuls les couples hétérosexuels peuvent y avoir accès et la GPA doit être altruiste, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de transactions financières. Et je rappelle, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais qu'une GPA aux États-Unis peut coûter jusqu'à 200 000 dollars et que cela comprend généralement l'indemnisation de la mère si elle doit arrêter de travailler, ainsi que les frais juridiques et médicaux. Plus proche de chez nous maintenant en Europe, les Pays-Bas autorisent la GPA uniquement pour leurs résidents. Le Royaume-Uni autorise aussi la GPA depuis 1985, mais interdit là aussi toute transaction financière avec la mère porteuse, à l'exception des frais qui sont liés à la grossesse. Et pour finir, eh bien, certains pays vont même jusqu'à intégrer la GPA à leur politique touristique médicale, comme la Thaïlande, qui vient d'annoncer qu'elle allait l'autoriser pour les couples mariés et étrangers. Ils pourront avoir recours à une mère porteuse thaïlandaise ou alors venir dans le pays avec une mère porteuse de leur choix. Gabriel Siriwari, est-ce que cette notion de GPA éthique, elle est possible quand on a autant de règles différentes un petit peu partout dans le monde ?
Alors, pour moi, la GPA éthique, c'est un leurre pour plusieurs raisons. Vous faites bien de rappeler les différents cadres nationaux. Moi, je voudrais rappeler quelques chiffres aussi. C'est le poids de l'industrie de la GPA. Ça croît très rapidement, c'est un marché très lucratif hein, qui représentait 6 milliards de dollars en 2019, c'était 14 en 2022 et on estime que ce serait près de 100 milliards de dollars en 2030. Donc c'est très lucratif et d'abord pas pour les femmes mais pour les propriétaires de cliniques, pour les avocats qui rédigent les contrats de GPA, pour les médecins, etc. Donc on est bien dans le cadre quand même d'un marché capitaliste. Hein. Ensuite, ce que je voudrais dire sur la GPA éthique, pour moi, ça n'existe pas pour plusieurs raisons. Les premières statistiques, et je vais citer les sources, donc c'est la SIAMS, voilà, qui montre qu'en Ontario, donc où c'est autorisé, dans 95% des cas, les mères porteuses ne connaissent pas les couples d'intention. Donc en fait, cette situation que vous évoquiez de quelqu'un qui porte pour un membre de la famille, etc., c'est extrêmement marginal si ça existe. Le deuxième point, c'est que là où ça existe, vous n'avez pas cité la Grèce, je crois, mais c'est autorisé là-bas, il y a des dessous de table. Là aussi, c'est ce qu'on voit. C'est très rare les cas qui ne sont pas rémunérés. Il y a des dessous de table parce que ce n'est pas surprenant, ce n'est pas un scoop. C'est très rare les femmes qui acceptent de mettre à disposition leur utérus par pur.
Alors là-dessus, c'est important de vous entendre parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un libre arbitre des femmes. Et en même temps, professeur Nizan, on dit que l'essentiel des GPA se pratique dans des pays plutôt pauvres où le consentement et l'accord noué entre les parties, dit-on, peut être faussé par le besoin matériel des femmes.
Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il existe une greffe d'organes éthique ? Vous savez qu'il y a des endroits où on vole les organes pour les greffer à des riches personnes. Est-ce qu'il existe une adoption éthique ? Vous savez qu'il y a des pays où on vole les enfants pour les vendre à des Occidentaux. Pour ces deux questions, nous avons résolu le problème en faisant propre à la française. Si on ne laisse aux couples français que le choix d'aller s'expatrier dans des pays où les réseaux mafieux règnent, alors on peut critiquer ce qui se passe sur la GPA. Moi, je dis que c'est un manque de courage de n'avoir pas légiféré dans notre pays, d'avoir exporté notre souffrance vers d'autres pays où se passent des choses qui ne sont pas souvent regardables. J'aimerais bien qu'on fasse propre chez nous.
Donc on ferait, en Angleterre, le modèle, le schéma encadrement, sans financiarisation.
On pourrait le faire encore plus sévère. J'ai une proposition à vous faire. Des comités de la parentalité qui décident moitié homme, moitié femme, moitié professionnel, on étudie le dossier, trois personnes viennent voir pour une GPA, et au bout de l'année, on dit OK ou pas OK. Et en particulier, on pourrait très bien indexer la décision sur le degré de dépendance des femmes à l'argent.
C'est pas possible de faire propre dans un marché qui est capitaliste. Il faut comprendre ça. Les Américains, c'est légal aux États-Unis, ils vont faire pour beaucoup de couples des GPA en Ukraine. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher. On est dans une situation où les couples vont choisir le pays où la GPA a les conditions qui leur conviennent le mieux. Donc ce n'est pas du tout parce qu'on légaliserait la GPA en France que ça permettrait de mieux l'encadrer. Au contraire, ça contribuerait à la faire croître. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'organise entre les pays qui l'ont légalisé.
Thomas Pavlovski. La légalisation n'empêche pas la financiarisation.
Je vais taquiner Gabriel Siri, mais je pense que Gabriel Siri vit dans le pays de Bambi. Le sujet aujourd'hui, laissez-moi terminer. La question, c'est pas est-ce que la GPA est légale ou pas légale. Aujourd'hui, la GPA, ça existe et ça existera toujours. Voilà. Et
non, ça, ça n'existait pas avant il y a une trentaine d'années. Donc,
la sécession d'enfants. Si, mais bien sûr que
si. Avant 1985, ça n'existait pas. Mais bien sûr
que si. On ne demandait pas la carte d'identité.
Mais on ne demandait pas la carte d'identité. C'était des femmes qui portaient des enfants et qui les donnaient à d'autres. Donc,
un moment
qui était marginal.
Non, mais c'est ça, c'est.
100 milliards de dollars en 2030.
Terminé.
Comme vous l'avez dit, aux hôpitaux, etc. Laissez-moi terminer juste, Gabriel Siri. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas est-ce que c'est légal ou pas légal, ça existe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on légalise la GPA dans les pays occidentaux, ça est encadré avec des conditions. Par exemple, une mère porteuse, entre guillemets, une femme qui porte pour être indemnisée à un prix plancher, ça éviterait justement d'aller dans des pays comme la Colombie, comme l'Inde, sur des pays où justement ce n'est pas éthique. En fait, penser qu'on pourra interdire la GPA au niveau mondial, ça n'arrivera pas.
Alors, on va vous faire entendre quelqu'un.
Voulais répondre sur le côté, les féministes, on est contre la GPA. Pas toutes les féministes, énormément de féministes sont pour aussi. Je vous rappelle le slogan des féministes, mon corps, mon choix. Voilà.
Un témoignage pour vous faire réagir.
Les suites justement d'une GPA, qui peut être aussi faite par des couples hétérosexuels, c'est le cas aussi en France. Une voix se fait entendre actuellement, celle d'Olivia Morel. Elle est née d'une gestation pour autrui d'un couple hétérosexuel. Elle le vit mal et est devenue une militante de l'abolition de la GPA. On l'écoute.
Vers 6-7 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à avoir un décalage complet entre moi et mes parents. Je n'avais pas de photo de moi à la naissance, je questionnais sans cesse mon existence et je souffrais trop. J'avais une crise identitaire qui était énorme, je ne savais pas qui j'étais. Après, s'en est suivi quand même beaucoup de questions. Pourquoi on m'a vendue? Pourquoi moi? Qui est cette mère? D'où je viens? Quelle est mon histoire? Et puis voilà, c'était très compliqué émotionnellement parlant.
Thomas Pavlovski, vous entendez cette souffrance aussi?
Alors oui, alors je trouve que le cas d'Olivia Morel que vous avez repris dans votre tribune est quand même un cas compliqué. Le cas d'Olivia Morel, déjà, ce n'est pas une GPA classique, entre guillemets. Hein. Elle a découvert à 31 ans que ses parents n'étaient pas ses parents. Je pense que n'importe quel enfant, nous tous y compris autour de la table, on serait choqués à 31 ans.
Par ailleurs, votre fille Marie qui a 4 ans est au courant.
Mais alors, nous, on ne lui a jamais rien caché. Elle sait qui est Isabella, elle sait qui est Kelsey, elle sait exactement ce qui s'est passé, à savoir papa Thomas a mis sa petite graine dans l'œuf de Kelsey, papa FX a mis tout son amour et Isabella a porté. Elle sait très clair. Mais dans le cas d'Olivia Morel, il suffit d'aller sur ses réseaux sociaux pour voir que c'est un peu compliqué. Elle fréquente les sites complotistes, elle est transphobe, donc c'est vraiment pas le meilleur exemple. Bon. Et juste un dernier point qui est important ce soir, moi je veux vraiment en parler, pourquoi on est là ce soir? Parce qu'on s'est tous fait avoir par François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal Le Pen, qui sont à la peine dans les sondages aux européennes, qui agitent le GPA en chiffon rouge, alors que personne, ces derniers temps, a demandé la légalisation de la GPA. Macron a fermé la possibilité. Et ce que je regrette, c'est que des politiques comme Gabriel Siri est plongé dans le panneau, que les médias est plongé dans le panneau. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Excusez-moi, je suis plus concerné que là. Tous les médias ont enlevé la nuance de François-Xavier Bellamy, que ce soit le JDD, Europe 1, Marianne.
La nuance, c'était la GPA forcée, rapport à la résolution du Parlement européen.
Je vais essayer de répondre à la nuance, justement. Mais professeur Nizan, c'est vrai qu'il y a un sondage qui est sorti, là, disant 59% des Français sont favorables à la GPA, dont 64% des femmes. Pour autant, c'est vrai, on se dit qu'il faut des garde-fous, mais en même temps, est-ce que ça suffira? Est-ce qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir une dérive?
Moi, j'ai grande confiance dans la loi de la France. Il ne s'agit pas de faire la règle pour la Thaïlande, il ne s'agit pas de faire la règle pour l'Ukraine, il s'agit de faire la règle chez nous. Et comme on n'a pas de règle chez nous, juste l'interdit qui est d'une simplicité un peu biblique, eh bien on oblige nos couples à aller dans des endroits où ils sont maltraités et où l'éthique fondamentale à laquelle nous tenons tous, nous avons des valeurs, ces valeurs sont bafouées parce qu'on n'a pas osé légiférer chez nous.
Alors les garde-fous fiables, justement, Gabriel Siriwari.
Mais si c'était le cas, encore une fois, nous n'aurions pas de couple d'Américains qui vont en Ukraine, nous n'aurions pas de couple qui vont en Inde parce que les GPA sont trois fois moins chers là-bas. C'est vous qui êtes dans le monde de Bambine. Nous vivons dans un monde capitaliste où c'est une industrie lucrative et louer son utérus, abandonner l'enfant à la naissance, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par pure bonté d'âme.
Et comment comprenez-vous que 64% des femmes soient favorables à la GPA? C'est le dernier sondage.
Alors, les sondages sont un peu contradictoires.
Il y en a
d'autres qui disaient
l'inverse.
Mais je crois qu'il ne faut absolument pas.
Laissez Gabriel Siri, s'il vous plaît.
Pour terminer sur la GPA éthique, c'est là aussi un leurre parce qu'en général, c'est un prélude à la commercialisation. Vous citiez le cas du Royaume-Uni. Ça a commencé par la GPA éthique. Aujourd'hui, ce qui est débattu, c'est une GPA commerciale. Pourquoi? Parce qu'il y a trop peu de femmes volontaires. Encore une fois, croire que des femmes vont massivement se précipiter pour porter le bébé de quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Et donc, les faits sont là, les études sont là, les statistiques sont là. Et je veux bien croire qu'il y ait des belles histoires. Et moi, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde avec vos enfants, mais pas au détriment de la santé des femmes.
Sont les mères porteuses. Personne ne donne la parole aux mères porteuses.
Très bien. Alors, nous le referons, mais pour ce soir, dans le cas de ce débat, il est terminé et il était éruptif, mais passionnant. Et malgré tout, dans la nuance. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.